Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Pour une fois, voici une enquête criminelle plutôt rigolote. C'est assez rare pour en profiter. L'enquête sur le vol en août 1949 sur la Côte d'Azur, des bijoux de la Begum, la femme de l'Aga Khan, l'homme le plus riche du monde, une bouillabaisse marseillaise de la meilleure facture, que j'ai écrite en grande partie en m'inspirant du livre de Jean Pax Méfray chez Pygmalion, Le vol des bijoux de la Begum. Thomas Audouard m'a aidé à l'écrire, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans cette histoire, la Begum se fait voler ses bijoux. Ciel ! Et donc il faut que je vous explique tout de suite qui est la Begum. Reconnaissons au passage que c'est un nom rigolo. Begum rouge, Begum vert, Begum comme bégonia. Bref, je m'égare. La Begum, donc, est traditionnellement l'épouse de l'Aga Khan. Et l'Aga Khan, c'est le chef religieux, l'imam, d'une branche de l'islam qu'on appelle les Ismaéliens Nizarites. Une branche qui a émergé en Iran au début du 19e siècle. L'Aga Khan serait le descendant direct d'Ali, le gendre de Mahomet. Et on est Aga Khan de père en fils. Notre histoire a lieu durant l'été 1949. À cette époque, il s'agit du prince Aga Khan III. Il a 72 ans et il est au bout du rouleau. Il en est à sa quatrième épouse, sa quatrième Begum. Et c'est une Française, figurez-vous, née Yvonne Labrousse. Beaucoup plus jeune, bien sûr. 38 ans, c'est-à-dire 34 ans de moins que lui. Jolie, évidemment. Elle a été Miss France en 1930. Et si elle a succombé au charme de l'Aga Khan, ça n'est pas pour son minois. En 1949, le prince Aga Khan III est tout simplement l'homme le plus riche du monde. De quoi attirer les convoitises. Au mois d'août 1949, l'Aga Khan et sa ravissante épouse viennent de passer quelques jours dans leur villa du Canet sur la Côte d'Azur, la villa Yakimo. Et ils décident d'aller poursuivre leurs vacances à Deauville. Eh oui, les courses. L'Aga Khan a des chevaux, bien sûr. Et donc ils chargent leurs nombreux bagages dans leur Cadillac et ils prennent la direction de l'aérodrome de Cannes où les attend leur jet privé. C'est leur chauffeur qui conduit. Il emprunte une route étroite et sinueuse à travers les collines de l'arrière-pays niçois. Le prince est sur le siège passager à l'avant et la Begum est assise à l'arrière avec sa dame de compagnie Frida. Et soudain, un cycliste leur coupe la route. Il se met à zigzaguer, impossible de le doubler. Le chauffeur klaxonne, mais à la sortie d'un virage, la route est carrément barrée. Une traction avant noire est garée en travers. Deux hommes coiffés de béret basque descendent de la traction. Ils se ruent sur la Cadillac. L'un d'eux ouvre la porte arrière. « Et vous, là ? Soyez braves. Donnez-moi les bijoux et envoyez la monnaie. » Le prince Aga Khan donne sa montre et son portefeuille et la Begum tend à regret une petite mallette rouge qui se trouve à ses pieds. Ses bijoux. Et là, autant vous dire qu'ils ne viennent pas du manège à bijoux de chez Leclerc. Hein. Les braqueurs crèvent les pneus de la Cadillac. Ils montent dans la traction. Et bye bye. Et l'Aga Khan, son chauffeur, sa Begum et la dame de compagnie sont contraints de rentrer à pied à la villa Yakimo. Évidemment, comme tout le monde, vous voulez savoir ce qu'il y avait dans la petite mallette rouge, hein? Alors, dans la mallette à bijoux, il y avait 3 bracelets en brillant, un clip en émeraude et rubis, et surtout, il y avait, la marquise, un diamant de 22 carats, un solitaire unique par sa taille. Valeur totale, 220 millions de francs de l'époque. Ce qui, si on tient compte de l'inflation, fait dans les 7 millions d'euros d'aujourd'hui. Joli coup. Très joli coup. Et ça n'est pas le premier de l'été. Le 1er août, 25 millions de francs ont été dérobés à Aix-en-Provence. Et le 2 août, 200 millions de francs de bijoux sont volés chez Van Cleef et Arpels à Cannes. Évidemment, dès que la police est prévenue, elle mobilise un commissaire, Jean Aiglen. Enfin, la Gacan, c'est le moins qu'on puisse faire. Il ordonne qu'on installe immédiatement des barrages sur les routes, dans un périmètre de 100 km autour de Cannes. Le chauffeur a noté la plaque d'immatriculation de l'attraction. On ne sait jamais. Mais la voiture est retrouvée vide, à Cannes, dans le quartier de la Californie. Dedans, ils ont oublié un béret basque. Les plaques étaient évidemment fausses. D'après son numéro de châssis, l'attraction a été volée il y a 6 mois à Marseille. Mais est-ce qu'un commissaire, ça suffit? Non. Le directeur général de la police judiciaire, Georges Valentin, est en vacances à Antibes. Il interrompt ses vacances. Et tant qu'à faire, le directeur régional de la police à Marseille, le commissaire Mével, s'y colle aussi. Puisque la voiture a été volée à Marseille, il a peut-être sa petite idée. Le lendemain et le surlendemain, la Gacan, la Bégum et leur chauffeur sont interrogés à plusieurs reprises. Bien, je vais vous montrer, mesdames et messieurs, un album photo. Hein ? Vous avez vu les voleurs ? Est-ce que vous les reconnaissez, là ? Regardez bien. Sous leurs yeux, la trogne de tous les bandits de Marseille. Ça fait quelques pages, hein ? On est plus proche du bottin que de la feuille de Metz. Quoi qu'il en soit, ils n'en reconnaissent aucun. La compagnie qui assurait les bijoux, la Lloyds, propose une récompense de 20 millions à qui permettra de retrouver les bijoux. Bah oui, sinon c'est 220 millions qu'il va falloir qu'ils sortent. Et l'Agacan lui-même, bon prince, rajoute 5 millions. Autant d'argent dans cette région à cette époque, ça crée des vocations. Des dizaines de Marseillais et de Niçois se mettent à écrire au commissaire pour apporter leur témoignage et réclamer de l'oseille. Faut faire le tri. Ça prend du temps. À la villa Yakimour, en attendant, l'ambiance n'est plus à la fête. Quelqu'un a renseigné les braqueurs. Sur le trajet, sur l'heure, sur la date, sur la nature de la cargaison surtout, sur la présence dans la mallette de l'un des plus gros diamants du monde. Du coup, tout le personnel est soupçonné. Les jardiniers, les cuisinières, les femmes de chambre, la police judiciaire les interroge un par un. Et en l'absence de piste, pour l'instant, le meilleur indice, c'est la voiture, la traction avant. Elle a donc été volée à Marseille. Alors les policiers marseillais secouent leurs indices comme des pruniers. Rien ne tombe. Mais au sujet de la voiture, il y a peut-être un fil à tirer. La batterie, elle est neuve. Ils ont changé la batterie après avoir volé la voiture pour ne pas tomber en rade avec leur butin. Donc ce sont des pros. Et sur la batterie, il y a un numéro de fabrication. Alors les policiers appellent le grossiste, qui leur désigne le garagiste qui l'a vendu. Et ils vont voir le garagiste. La batterie ? Ah mais je ne l'ai pas changée moi-même. Hein. Moi je l'ai juste vendue. Hein. Le gonz, il a dû l'installer lui-même. C'est pas bien compliqué à faire. Hein. Et vous savez à qui vous l'avez vendue ? Ah mais ça, monsieur le commissaire, franchement... Je me souviens plus. Sur le papier, c'est possible hein, qu'il ne se souvienne pas. Mais à l'intuition, le commissaire Valentin ne le croit pas. Alors il envoie un de ses hommes secouer le garagiste. Et finalement, miracle, ça me revient d'un coup là. C'est au gros Roger que je l'ai vendu la batterie. Il y en a qui l'appellent le juif, d'autres prépuce. Moi, je l'appelle le gros Roger. Mais je peux pas vous en dire plus. Hein. Pas la peine d'en dire plus, monsieur. À la police judiciaire de Marseille, on sait très bien qui est le gros Roger. Prépuce, tout un programme. Roger Sénanège. Toujours dans les mauvais coups. Mais c'est une petite main. C'est ce qu'on appelle un cave. Ce n'est certainement pas lui qui a monté un coup comme ça. En attendant, un mandat d'arrêt est décerné contre lui. Ça se complique quand le commissaire Valentin, un matin au petit déjeuner à son hôtel en lisant Nice Matin, découvre que les gars de la Tyler sont sur le coup. Il en boufferait son journal.
Au nom de Dieu, de nom de Dieu !
La Tyler, c'est une agence de détectives anglaise. Elle a été mandatée par la Lloyds, l'assureur de l'Aga Khan. Et d'après ce que dit le journal, il serait sur une piste, un réseau américain. Les bijoux de la Begum seraient en route pour les États-Unis. Vrai ou faux, ça agace beaucoup le commissaire Valentin, beaucoup. D'autant qu'il se murmure qu'un commissaire de la PJ de Paris donne un coup de main au Rosbif. Le commissaire Hugues, que le ministère de l'Intérieur aurait aimablement mis à disposition des Anglais. Sans prévenir, bien sûr. Et c'est l'Aga Khan. Cette enquête débute en tout cas dans une sympathique ambiance de rivalité. Et ça n'est jamais propice à une enquête sereine. Toutes les polices de la planète Terre ont maintenant les photos des bijoux, ce qui devrait compliquer un peu le boulot des receleurs. Et à la fin du mois d'août, le gros Roger n'est toujours pas logé. C'est normal, son nom est partout dans les journaux, il se planque. Mais un autre nom apparaît le 10 août dans le journal Le Monde. Je vous lis. Monsieur Paul, ce redoutable personnage qui s'évada l'an dernier de la prison Saint-Pierre, aurait fait dernièrement plusieurs apparitions à Marseille et de nombreux déplacements vers la frontière italienne. Ce grand seigneur de la pègre, qui dédaigne les opérations d'importance secondaire et qui aurait réussi à reconstituer des équipes décapitées par la capture récente de leur chef, est soupçonné fortement d'avoir monté la grosse affaire du Canet. Monsieur Paul. Paul Leca. Pour dire la vérité, depuis le début, les policiers marseillais se disent qu'il peut en être, que ça lui ressemble. Et donc il faut trouver qui il a pu recruter. Et donc la PJ secoue à nouveau ses indices. Et début janvier, un tonton, un certain Jean-Thomas Guidicelli, révèle deux noms.
Vous devriez vous intéresser à François San, hein? Et puis aussi à Barthélémy Ruberti, hein?
Les deux sont coffrés immédiatement et cuisinés aux petits oignons. Hein, et à un moment, le commissaire leur demande s'ils connaissent Roger Sénanège, le gros Roger.
Le gros Roger? Oh ben ne cherchez pas le gros Roger, il est mort. Hein. C'est pas lui qui a braqué les bijoux, c'est moi. Et je peux même vous dire que j'ai été très poli avec la princesse. Hein.
Le gros Roger aurait été liquidé par ses complices parce qu'il en savait trop. Ce qui, au passage, ouvre une enquête pour meurtre. La suite de l'interrogatoire est très musclée. Hein. On sort la machine à baffe. Et François Sana balance toute l'équipe, du haut jusqu'en bas. Paul Leca, Monsieur Paul, c'était bien le grand chef. Ruberti a joué le rôle du cycliste. Sana et un certain Benedetti ont fait le braquage. Et il y avait aussi un Paul Mondoloni, armé d'une mitraillette, et le gros Roger, qui conduisait la traction. Benedetti et Mondoloni sont arrêtés, et ils rejoignent Ruberti et Sana en prison. Il ne manque plus que Monsieur Paul, et les bijoux de la Begum, bien sûr. A priori, ils sont ensemble. Vous avez remarqué que jusqu'ici, c'est la police judiciaire de Marseille qui a fait le boulot. Et le commissaire Valentin de la brigade criminelle de Paris est un peu ronchon, au point qu'il a fini par rentrer à Paris. Très énervé que son ministère, sans le prévenir, ait affecté un autre commissaire auprès des détectives anglais de la Tyler, mobilisés par l'assureur, la Lloyds. Et puis à un moment un peu calmé, il décide de redescendre à Marseille. et il débarque pile au moment de la perquisition de l'appartement de Monsieur Paul, Paul Lake. Et dans l'appartement de Lake, il fait une sacrée trouvaille. Un petit carnet dans lequel Monsieur Paul a noté avec soin des noms, des numéros de téléphone et des adresses. Le commissaire le feuillette page à page et il bute sur un nom.
Pierre Berthaud ? Oh nom de Dieu, Pierre Berthaud.
Il faut dire qu'il y a de quoi à s'étouffer. Pierre Berthaud est le directeur de la police nationale. C'est un préfet. C'est son patron. Que fait son numéro de téléphone dans le carnet de Monsieur Paul ? Non. Il serait dans le coup ? Il serait derrière le vol des bijoux ? Et là se produit quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Le 26 janvier, sur les coups de 20h, devant le commissariat de Marseille, le planton remarque un petit paquet sur une marche. Il le ramasse. Sur le paquet, il y a une étiquette. Monsieur le commissaire, virgule, à ouvrir en présence de Monsieur Sacotte, juge d'instruction. Le commissaire fait appeler le juge. Il arrive. Ils ouvrent le paquet. Des bijoux! Des bijoux enveloppés dans du papier de soie, avec un petit mot griffonné. Voilà les bijoux de la Begum. Le reste a été enlevé par Sénanège. Ça alors? On a rendu les bijoux de la Begum. À moins que ce ne soit des faux. Le juge désigne immédiatement un expert bijoutier. Il a bien fait. C'est du toc. Quelqu'un se moque. Mais qui? Au cas où, le lendemain à 9h, le commissaire fait faire une contre-expertise dans le bureau du juge. On confie les pierres et les bijoux à 3 joailliers. Il les pèse, il les observe sous toutes les coutures, à la lumière du jour, à la lumière d'une lampe. Et à 11h30, ils rendent leur verdict d'une seule voix.
Alors, nous avons recensé une émeraude de 14 carats, un brillant rond de 8 carats et demi, une émeraude de 6 carats, 13 brillants ronds de 30 carats, 199 brillants montés en barrette d'un total de 114 carats, un lot de brillants pour un total de 142 carats, et 4 émeraudes qui pèsent ensemble 18 carats. Vous voulez dire, messieurs, que ces bijoux sont vrais ?
Ah oui, oui, ça on ne peut plus vrai, monsieur.
Le premier expert s'était trompé. Et vous avez remarqué qu'il manque une pierre, hein? La plus grosse, la plus rare, la plus chère, la marquise. Un diamant de 22 carats. Mais bon, ne mégotons pas. Il y en a quand même là pour 150 millions de francs. C'est dingue. On a rendu les bijoux de la Begum. Comme ça. Cadeau. Cadeau à la police. C'est pas banal comme issue, ça. Évidemment, le commissaire Truchy de Marseille prévient immédiatement la Lloyd's. Et le lendemain, dans le journal, un avocat marseillais, Maître Chiappe, prétend qu'il a été consulté par les malfaiteurs et que c'est lui qui leur a conseillé de rendre les bijoux. Ce jour-là, le commissaire Valentin n'est pas là. Il est au fond de son lit, il est malade. Mais il se tient au courant. Et il ne croit pas un mot de l'issue de cette enquête. Depuis qu'il a vu le nom de son patron, Berthaud, dans le carnet de Monsieur Paul, ça l'obsède. Il est sûr que Berthaud est derrière tout ça, le directeur de la police nationale. Il paraît en plus qu'on l'a vu récemment sur le Vieux-Port. Le sac de nœuds entre commissaires se complique quand le commissaire Valentin se met à réclamer la prime. La prime promise par la Lloyd à qui ramènera les bijoux. Et ça met son collègue marseillais Truchy en pétard.
Tu veux récupérer 600 000 francs ? Écoute, c'est une avance, simplement c'est pour mon indicateur. Quel indicateur ?
Ça, je peux pas dévoiler son identité.
Un indicateur ? Tu parles ? Valentin veut se mettre les 600 000 dans la poche, oui. Et ça se complique encore quand en avril 1950, la presse se met à parler de Berthaud. et a suggéré que la marquise, le solitaire de la Begum, est dans le coffre du ministère de l'Intérieur. L'affaire des bijoux est en train de virer au règlement de compte. Quand Berthaud, patron de la police, apprend que le commissaire Valentin se répand sur son compte, il prend la décision de le limoger. Valentin est furibard, il se défend dans la presse. Je lis. Les entraves apportées par M. Berthaud à sortir l'affaire de la Begum, qui devait mettre si cruellement en lumière ses relations avec les gangsters, n'est-ce pas pour protéger ses amis en fuite et éloigner le chef de la police judiciaire? J'en tiens des preuves à votre disposition. Le ministère lui rappelle dans la foulée que ça n'est pas à lui d'enquêter sur sa hiérarchie, que pour ça il y a les boeufs carottes, la police des polices. Et donc le 6 juin, le commissaire Valentin est démis de ses fonctions. Mais ça n'est pas fini. Le 12 juin 1950, un courrier arrive dans le bureau du juge d'instruction. C'est M. Paul, Paul Leca. La lettre vient d'Italie. « Je n'ai jamais, de près ou de loin, été mêlé à l'affaire des bijoux de la Begum. Je me suis mis à l'abri pour éviter une erreur judiciaire. » Valentin boit du petit lait. « Bien sûr que ça n'est pas M. Paul, puisque c'est Berthaud. » Et puis arrive le procès, qui s'ouvre le 6 juillet 1953 devant le tribunal d'Aix-en-Provence. En présence, s'il vous plaît, de la Begum, qui débarque en Cadillac couleur prune. Dans la salle d'audience, le nombre des avocats est impressionnant. Ils sont 26. Et ce qui saute aux yeux dès le début, c'est qu'il manque le cerveau présumé, le chef de bande, M. Paul. Sans qui le procès perd de son sel. On ne juge que des exécutants, des seconds couteaux, des demi-selles. Le public n'attend bien sûr qu'une seule chose. L'audition de la Begum, qui débute assez mollement.
« Monsieur le Président, je ne pourrais rien raconter que les jurés ne sachent déjà.
Pourriez-vous, madame, reconnaître votre agresseur parmi les accusés ?»«
Oui, oui, lui. »
Elle en désigne un seul, François Sana.
Et la marquise, madame, même retaillée, vous pourriez la reconnaître?
Enfin, c'est-à-dire, oui, peut-être.
Le président exhibe alors une pierre retrouvée chez un joaillier et qui pourrait être la marquise retaillée. Elle la regarde longuement, elle hésite, elle l'oriente vers la lumière qui entre par la fenêtre de la salle d'audience.
Ah oui, c'est elle, hein? J'en suis certaine, c'est elle.
Ce qui voudrait dire qu'il ne manque plus de pierres. Elles ont toutes été retrouvées. Et donc la marquise n'est pas dans le coffre du ministère de l'Intérieur, comme le pense le commissaire Valentin, ni dans la poche de M. Paul. Du coup, on attend avec impatience la déposition du commissaire Valentin, qui a lieu le lendemain. Lui, il n'a pas bougé. Il a été viré de la police. Il pense toujours que Berthaud, le directeur de la police, est derrière le braquage des bijoux.
Vos accusations sont graves, monsieur. Vous parlez sans preuve.
Peu importe. Valentin ne lâche rien. Il s'enferre dans ses spéculations. Et pour vous dire la vérité, tout le monde le prend pour un dingue, pour un raté qui se fait mousser. Son obsession lui a fait perdre toute crédibilité. Mais voilà justement que Berthaud, le directeur de la police, qui a su par la presse qu'il s'était fait tailler des croupières au procès, veut témoigner. Il a écrit au président, il demande à être entendu. Mais le président refuse, ce qui est assez logique, enfin, on est clairement hors du champ du procès. Et au final, Valentin n'a pas tout perdu, puisque le préfet Pierre Berthaud, directeur de la police nationale, est suspendu de ses fonctions. Le dernier jour du procès, Sana, qui est le seul accusé que la Begum a formellement identifié, présente ses pâles excuses.
« Je regrette beaucoup mon vilain geste. Moi, j'étais parti pour un vol à la tire. Hein? J'aurais jamais cru que ça prenne une splendeur si grande. »
La salle éclate de rire. Il a confondu splendeur et ampleur. Le jugement est rendu. Sana, Benedetti et Ruberti, qui ont participé au braquage, écopent de 10, 8 et 6 ans de travaux forcés. Les grands absents, Leca, Mondoloni et Senanech le Gros Roger, au cas où ils ne seraient pas morts, sont condamnés par contumace aux travaux forcés à perpétuité. Après le procès, Valentin est réintégré dans la police, mais sans affectation. Et Pierre Berthaud, finalement mis hors de cause, est réintégré lui aussi. Quant à M. Paul Leca, il finit par se rendre en mai 1960, après des années de cavale aux États-Unis. Il prend 2 ans de prison et meurt dans son lit en 1966. Le prince Aga Khan III meurt en juillet 1957 et la Bégum lui fait bâtir un mausolée à Assouan, en Égypte. Elle mettra beaucoup de temps à l'y rejoindre. La Bégum est morte en l'an 2000 à l'âge de 94 ans, dans sa villa Yakimour du Canet.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.